Crime s'installe dans les Alpes pour vous raconter trois faits divers qui ont marqué la région. Crime dans les Alpes, c'est tout de suite.
Le 19 mars 1998, à 21h, les enfants de la classe de neige sont tous au lit. Vers minuit, leur instituteur, Bruno, fait un tour pour s'assurer que tout le monde dort. Les couloirs sont silencieux, les lumières sont éteintes dans les chambres. Rien ne semble perturber le sommeil des enfants. Pourtant, le lendemain matin, Bruno est réveillé par une animatrice en état de choc. Ludivine, l'une des petites filles du groupe, est étendue sur le carrelage de la salle de bain, inanimée. Ludivine est morte, elle n'avait que 11 ans.
Le monde s'arrête, on se demande si c'est un rêve, si c'est un cauchemar, si c'est vrai, si on a bien entendu, on se dit que c'est pas possible.
Le 31 octobre 2008, le corps de Daniel, un chaudronnier, est retrouvé calciné à l'arrière de sa voiture. Une voiture située à quelques mètres seulement de son domicile. Manuela, sa veuve, est effondrée. Son mari se montrait très déprimé depuis quelques temps. Alors, aurait-il commis l'irréparable? C'est ce que la femme suggère aux enquêteurs. Pourtant, deux premiers indices vont venir perturber cette version. Pas de traces d'ustensiles ayant pu servir à mettre le feu à la voiture, ni de clé sur le contact. Pour les gendarmes, c'est le début d'une enquête riche en rebondissements.
À chaque fois qu'il me disait « j'ai peur », il me dit je vais partir parce qu'elle me fait peur.
Le 26 août 2010, en pleine nuit, un homme blessé pousse la porte du commissariat de Gap. Il dit avoir été agressé dans le quartier. Intrigués, les policiers partent inspecter les environs. Des traces de sang laissées par l'homme sur le bitume les conduisent jusqu'à l'immeuble voisin où tout semble calme. Pourtant, au troisième étage, les traces s'arrêtent devant une porte close. Les policiers pénètrent dans l'appartement et découvrent un homme assis dans son fauteuil, sans vie, immaculé de sang. Il tient encore à la main le combiné du téléphone. Ironie du sort, au bout du fil résonne la voix du chef de poste du commissariat de Gap.
On essaie de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Abasourdi, et puis là, on est dans un autre monde, hein. On ne réalise pas. En premier temps, je n'ai pas réalisé.
Crime vous raconte ce soir l'histoire tragique de Ludivine, une fillette de 11 ans qui a trouvé la mort alors qu'elle était en classe de neige dans un petit village savoyard. Un récit bouleversant pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment les vacances merveilleuses de toute une classe de neige d'enfants de primaire se sont transformées en un véritable cauchemar. Un drame qui va briser à tout jamais la vie de plusieurs familles et celle d'un instituteur du nord de la France.
Le monde s'arrête, on se demande si c'est un rêve, si c'est un cauchemar, si c'est vrai, si on a bien entendu, on se dit que c'est pas possible.
Nous sommes au cœur des Alpes, à Albier-Montrond. Ce petit village savoyard est situé à près de 1600 mètres d'altitude. L'hiver, la commune jouit d'un attrait touristique, accueillant familles et colonies de vacances sur ses 67 km de pistes de ski.
Albier-Montrond est une petite commune très sympathique qui se trouve dans le domaine des Cibelles, bien connue des skieurs, au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est une petite station, hein, il y a 400 habitants à peu près. C'est vraiment la station familiale.
Le 19 mars 1998, à Albier-Montrond, une soixantaine d'élèves de primaire du Nord-Pas-de-Calais profitent depuis près d'une semaine de leur classe de neige. Ils sont hébergés dans un grand chalet de la station. Bruno est instituteur d'une des classes de CM1 de l'école Michelet des Nains-Beaumont. Il est fier de faire découvrir les sports d'hiver à ses enfants d'origine modeste.
Cette semaine se passe de façon extraordinaire. des enfants enthousiastes, des enfants qui s'éclatent, faut le dire, qui passent leur étoile, qui apprennent à skier, qui ont appris de la luge, qui ont fait un tas de visites. Tout était parfait.
La semaine de classe de neige touche à sa fin. Les élèves s'apprêtent le lendemain à rejoindre leur famille dans le Nord. Après une soirée de fête, les enseignants couchent les enfants. Puis, certains professeurs improvisent entre eux un pot de départ dans un bar face au chalet. À minuit, après quelques verres, tout le monde rentre se coucher.
Je fais mon petit tour habituel dans le couloir, voir s'il n'y avait pas de bruit. Mon collègue aussi, avec qui je partageais la chambre, fait son petit tour à l'étage au-dessus, puisque ses élèves étaient au-dessus. Et puis, on vient se coucher, et puis on ferme la lumière, et puis on dort.
Peu de temps après, le chalet s'endort. La nuit paraît très calme. Mais soudain, lorsque le jour se lève, Bruno, l'instituteur, est réveillé, en sursaut.
Ce matin-là, on frappe très fort à ma porte. Sandrine, l'animatrice, me réveille et un peu en panique, me dit « Bruno, la petite, il y a Ludivine qui est tombée, qui est inanimée dans la salle de bain. » Donc je me réveille, précipitation, la chambre était trois chambres au-dessus de moi. Et je découvre Ludivine allongée sur le sol.
La fillette de 11 ans gît sur le carrelage de la salle de bain.
Le premier geste que j'ai eu, c'est d'essayer de lui faire les premiers gestes de secours. Et en fait, je me suis rendu compte très vite qu'elle était décédée.
Bruno est effondré. Pour l'instituteur, c'est l'incompréhension totale.
À ce moment-là, je pense que Ludivine a eu un malaise. Elle pouvait être malade ou avoir mangé quelque chose, s'être étouffée. J'avais énormément d'hypothèses, mais je ne savais pas laquelle.
Dans le chalet, c'est la stupeur. Bruno, l'instituteur, appelle immédiatement pompiers et gendarmes. Mais que s'est-il passé dans la chambre de la petite fille? Est-ce un terrible accident? Que vont découvrir les enquêteurs? Vingt minutes après la découverte macabre de Bruno, les gendarmes de Saint-Jean-de-Maurienne arrivent au chalet. Accompagnés de pompiers, ils investissent la salle de bain où Ludivine a été retrouvée inanimée.
Les premières constatations démontrent qu'il n'y a pas eu d'effraction, que ce n'est pas quelqu'un qui est rentré dans ce chalet. Ludivine gît sur le sol, il n'y a aucune trace de sang.
Les gendarmes confirment très vite le décès. La fillette serait morte depuis quelques heures. Rapidement, un médecin légiste est dépêché sur les lieux.
Le médecin légiste qui va venir fait ses premières constatations et voit que Ludivine serait morte apparemment de strangulation.
Le rapport d'autopsie va confirmer que la fillette de 11 ans est bien morte par strangulation. Par ailleurs, aucune trace de sévices sexuels n'est relevée. Les enquêteurs concluent qu'ils ont donc affaire à un meurtre. Mais pour l'heure, ils n'ont aucun indice. Avant de commencer leurs investigations, ils ont la lourde tâche d'avertir les parents de Ludivine. Pour sa mère, le choc est immense.
Elle ne comprend pas et elle le vit très mal parce qu'elle voudrait savoir ce qui s'est passé et pourquoi sa fille a été étranglée.
Daniel, son père, routier, est séparé de la mère de Ludivine et il apprend la terrible nouvelle d'une toute autre manière.
Je me trouve au volant de mon camion. J'ai écouté RTL. J'ai entendu aux informations qu'il y avait eu un problème avec une petite fille qui dépendait de l'Académie de Lille. Là, ils ont simplement prononcé son prénom et la ville d'où elle était. Donc j'ai compris que Il s'agissait de ma fille, quoi. Le monde s'arrête, on se demande si c'est un rêve, si c'est un cauchemar, si c'est vrai, si, c'est, si on a bien entendu, si... voilà, on se dit que c'est pas possible.
Les parents de la fillette sont alors immédiatement convoqués à Albier-Montrond.
Pour elle, c'est un véritable cauchemar, parce que reconnaître le corps de son enfant à la morgue, dire que l'enfant est morte, c'est quelque chose d'effrayant. D'ailleurs, elle était venue en voiture et elle n'a pas pu repartir en voiture tellement elle était bouleversée. Elle a dû repartir en ambulance.
On se demande pourquoi. On se dit pourquoi. Pourquoi elle a été assassinée. On ne comprend pas. Elle n'avait rien fait à personne. Elle n'avait pas d'ennemi particulier. Enfin, je veux dire, voilà, c'était une enfant, c'est une gamine. Donc, non, on ne comprend pas. On se dit toujours, ça n'arrive qu'aux autres. Tant que ça ne nous arrive pas. Mais quand ça nous arrive, alors là, c'est un effondrement total.
Les parents de Ludivine sont dans l'incompréhension totale. Leur fille ne faisait que profiter des joies des sports d'hiver. Alors, pourquoi a-t-elle été assassinée? Et qui aurait pu en vouloir à une fillette? À Albier-Montrond, les enquêteurs se penchent sur le profil de la petite Ludivine, afin de trouver une piste éventuelle. La fillette est née en 1986 dans le Pas-de-Calais. Issue d'une famille modeste, elle a deux grands frères et une petite sœur. Ludivine est scolarisée dans une classe de CM1 pour élèves en difficulté. Elle était encore illettrée quelques mois avant sa mort.
C'est une enfant que je lui ai tout appris. À lire, écrire, compter, nager, les règles de la vie en collectivité. Donc c'était une gamine joviale, qui était très gentille, avec son petit caractère, mais pas plus que les autres. Une enfant très, très docile, très agréable, que j'adorais.
Mais ce qu'adorait plus que tout Ludivine, c'est la montagne et les sports d'hiver.
Le ski pour Ludivine, c'était un moyen de liberté, d'évasion. Si, elle adorait le ski. Elle adorait le ski. C'était pas la première année qu'elle y allait, mais elle adorait ça. Elle était heureuse quand elle était là-bas.
Ludivine a été tuée alors qu'elle n'était qu'une petite fille, innocente, qui aimait la vie. Les enquêteurs n'ont donc pour l'instant aucun élément qui expliquerait ce meurtre atroce. Une douzaine de gendarmes de Saint-Jean-de-Maurienne sont alors appelés en renfort au chalet, lieu de la scène de crime.
L'étage est bouclé, donc mes élèves sont dans le chalet en pyjama, puisqu'ils ont été réveillés au saut du lit, hein, je dirais. Donc tout est fermé, tout est bouclé, personne n'y a accès, la gendarmerie bloque tout, et puis on attend.
Après avoir établi un périmètre de sécurité, les gendarmes commencent leurs investigations et ils décident de recenser tous les enfants du chalet.
Les gendarmes mettent en place des auditions de tous les élèves du chalet. Ce n'était pas uniquement ceux de ma classe. Ils ont vu un par un tous les enfants qui étaient dans le chalet.
Les enquêteurs vont auditionner une soixantaine d'enfants. La situation est tellement extraordinaire qu'elle nécessite des mesures d'urgence.
On demande à des psychologues qui sont en congrès à Grenoble de venir en renfort pour aider justement les gendarmes, les enquêteurs.
Les auditions démarrent et elles vont durer de nombreuses heures. Présent sur les lieux, Bruno, l'instituteur, est toujours sous le choc.
Pendant ce temps-là, je suis dans le réfectoire, je suis effondré. Et puis là, j'ai une gamine de ma classe qui arrive, en pleurs, sur moi, je me souviens, et qui me dit que quelqu'un est venu dans la chambre.
Cette fillette qui partageait la chambre de Ludivine est donc formelle. Quelqu'un s'est introduit dans la chambre.
Et puis une deuxième qui arrive, même chose. Elle me dit, il y a un adulte qui est venu dans la chambre cette nuit. Et puis, une troisième, puis une quatrième. Je me suis dit, là, on est dans un problème très très grave.
L'instituteur en informe immédiatement les gendarmes sur place. Pour les enquêteurs, le scénario de la nuit du drame commence à se dessiner.
Elle désigne donc formellement un des cuisiniers et pour les enquêteurs, ça va leur faciliter la tâche.
Les enquêteurs recensent alors le personnel en cuisine. Et fait étrange, un cuisinier manque à l'appel. Ils partent immédiatement à sa recherche. Les gendarmes vont-ils retrouver le cuisinier disparu ? Est-il rentré dans les chambres, comme le disent les fillettes ? Et surtout, est-il l'auteur du meurtre de Ludivine ? À Albier-Montron, les gendarmes sont à la recherche du cuisinier, devenu leur principal suspect. Et ils vont vite faire le rapprochement avec un homme de 27 ans, découvert plus tôt le matin sur la route de Saint-Jean-de-Maurienne.
Le boulanger du secteur, qui faisait sa tournée très tôt le matin, découvre le cuisinier qui se trouve au bord de la route, légèrement blessé parce qu'il a fait une chute. Il a une bouteille de pastis à côté de lui. Il est dans un état d'ébriété très avancé.
Les gendarmes, ignorant qu'il s'agissait de l'auteur présumé du meurtre de Ludivine, avaient conduit cet individu à l'hôpital pour qu'il se fasse soigner. Mais après la découverte du corps de Ludivine au chalet, ils décident de retourner le voir sur le champ.
Ils vont à l'hôpital interroger le cuisinier. Là, le cuisinier va avouer ce qu'il a fait.
L'attitude de mon client va être, dès le départ, dès qu'on va le questionner sur les faits, de reconnaître et d'assumer l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. C'est quelqu'un qui ne va jamais chipoter, gigoter.
Le cuisinier raconte alors, dans les détails, son périple macabre, la nuit précédente, dans les dortoirs du chalet.
Il s'est rendu dans les différents dortoirs en allumant la lumière, en l'éteignant, attirant certaines petites filles dans la salle de bain pour des attouchements et parfois se rendant également dans le lit d'autres fillettes.
Ensuite, il est allé agresser Ludivine. Ludivine s'est rebellée en disant qu'elle allait le dénoncer. Et là, il l'a étranglée.
Entre chaque agression de fillette, le cuisinier explique qu'il va boire des pastis dans la cuisine du centre de vacances. Et le meurtre de Ludivine n'arrête en rien son carnage. Le cuisinier avoue persévérer dans l'horreur.
Ludivine était l'avant-dernière petite fille qu'il a agressée. Derrière, il y a eu une autre petite fille à qui il a dit dans le couloir « j'ai tué ta copine ».
Puis vers 5h du matin, après avoir agressé 7 fillettes et tué Ludivine, il s'enfuit. Le cuisinier quitte alors le chalet imbibé d'alcool. Il erre sur les routes, tellement ivre qu'il se blesse et dit vouloir rentrer à Toulouse à pied.
C'est quelqu'un qui est complètement effondré et qui est complètement dépassé par l'atrocité du crime qu'il a pu commettre.
Après ses aveux, les gendarmes le placent immédiatement en garde à vue. Le cuisinier est mis en examen pour agression sexuelle et meurtre sur enfant de moins de 15 ans. Les enquêteurs vont alors s'intéresser au profil de l'individu afin de tenter d'expliquer ce crime barbare. Quel homme se cache donc derrière le cuisinier ? A-t-il prémédité son geste fatal ? Comment explique-t-il son carnage ? Le cuisinier de la classe de neige a donc avoué le meurtre de la petite Ludivine. Il est alors présenté au juge d'instruction, dépêché d'Albertville, devant lequel il s'épanche sur sa vie. L'homme s'appelle Laurent, il est célibataire et son casier judiciaire est vierge. Ses premières révélations au magistrat glacent le sang.
Il parle de son mal-être, de son mal de vivre, de sa pédophilie, de son impuissance et puis du fait qu'il est attiré par les petites filles.
Pour son avocat, il faut se replonger dans son enfance pour tenter de comprendre ses gestes fous.
Il y a une ambiguïté considérable, une relation très ambiguë avec sa mère, qui a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle était, mais qui manifestement n'a pas su élever son fils comme il fallait au moment où il le fallait. Un père, me semble-t-il, considérablement absent, pour ne pas dire totalement absent, donc manque de repères.
Au cours de l'enquête, les gendarmes font également une découverte surprenante. Ils mettent la main sur une lettre écrite 2 ans plus tôt par le meurtrier présumé. Un écrit sans destinataire, mais qui résonne comme une prémonition.
Il dit en fait mon problème, si c'est vraiment un problème, je crois que je suis très attiré par les enfants. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait énormément souffrir. Et puis il continue, il faut que je fasse quelque chose. Violer un enfant peut-être ? Terrifiant, parce que c'est ce qui va se passer. Je deviens fou. Je perds la tête. Je vais faire une connerie. Et puis la dernière phrase est terrifiante, au secours.
Mais personne, dans son entourage, n'a su entendre le cri d'alerte du pédophile. Une indifférence qui lui vaut d'être embauché comme cuisinier auprès d'enfants, sans éveiller le moindre soupçon.
On n'arrive pas bien à comprendre comment ce jeune homme, avec le profil qu'il avait pu être engagé comme cuisinier dans un centre qui accueille des jeunes. Il avait déjà eu un parcours de cuisinier qui n'avait pas posé de problème. Il travaillait à Toulouse, la ville où il résidait à l'origine.
Alors que les gendarmes disposent désormais d'éléments probants sur le profil du tueur, au chalet, les enquêteurs terminent leurs investigations. Et c'est à Bruno que revient la lourde tâche de parler du drame à ses élèves.
Les enfants s'en doutaient, mais ils n'en parlaient pas. Ils n'en parlaient pas entre eux. Ils avaient bien vu que Ludivine n'était plus dans la classe. Et à un moment, j'ai dû leur dire. Donc là, là, les enfants, je les ai réunis. Et excusez-moi. Et je leur ai annoncé que Ludivine était morte. Je n'aurais pas dit qu'elle avait été assassinée. Mais je leur ai dit. Ce sont tous serrés autour de moi. Ils m'ont serré fort. Et on pleurait tous.
Après plus de 10 heures d'enquête au chalet, le procureur donne son feu vert à l'évacuation des lieux. Enfants et enseignants reprennent la route en état de choc vers le Nord-Pas-de-Calais. De son côté, Laurent est placé en détention provisoire. Mais comment les parents de Ludivine vont-ils vivre ce procès ? Et quelle peine les jurés vont-ils infliger aux cuisiniers ? Nous sommes le 20 juin 2000 à la cour d'assises de Chambéry. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès du cuisinier de la classe de neige. Il comparaît pour le meurtre de Ludivine et l'agression sexuelle de 7 autres fillettes. L'homme risque la réclusion criminelle à perpétuité.
Dans la salle d'audience, qui n'était pas à l'époque une salle très grande, il y avait toutes les victimes, il y avait les familles, il y avait dès le départ une atmosphère très lourde.
Cela fait 2 ans que Daniel, le père de Ludivine, attend que le meurtrier de sa fille soit jugé. Et il espère enfin obtenir toutes les réponses à ses questions.
La question essentielle, c'est le pourquoi il a fait ça. Ça, c'est la question essentielle. Parce qu'on ne comprend pas, parce que c'est une enfant. Donc on se dit, ah non, mais pourquoi ? Pourquoi il a fait ça ?
De son côté, la mère de Ludivine veut-elle aussi que justice soit faite ?
Ses attentes, c'était devoir reconnaître coupable celui qui l'avait privé de sa petite fille. Être reconnu comme victime, elle, ses enfants, sa famille, tout le monde, c'était quand même important. Mais comme elle me disait, vous savez, ça ne me rendra jamais ma fille.
Le premier jour d'audience est consacré à la personnalité du meurtrier présumé et au rappel des faits.
Le meurtrier présumé se présente très simplement à la barre. J'ai le souvenir qu'il avait un pantalon beaucoup trop large pour lui. Il parlait très simplement.
Il faisait tellement jeune et comme on dit, il n'avait pas la gueule de l'emploi. Honnêtement, c'était un monsieur tout le monde. Si on l'avait croisé dans les rues, c'était monsieur tout le monde. Il était comme moi, comme n'importe qui, quoi, je veux dire, voilà. Et là, ça a été un choc.
Selon les experts psychologues, le cuisinier est totalement responsable de ses actes. Il n'y a aucune altération du discernement. Le président de la cour le somme alors de raconter sa nuit d'horreur.
C'est quelqu'un qui va tout dire, qui attend ce moment pour se livrer, pour livrer cette terrible vérité, cette terrible réalité aux victimes.
Ce qui a été le plus marquant et le plus poignant, ça a été la description de l'acte fatal contre Ludivine, où il n'y a aucun détail qui nous a été épargné.
Après le rappel des faits, c'est au tour de Bruno de raconter la classe de neige. Un moment délicat pour l'instituteur. Sa responsabilité d'enseignant est en effet au cœur des débats. Comment se fait-il qu'aucun adulte n'ait rien entendu la nuit du drame ?
J'avais le sentiment d'être jugé moi-même dans mon métier. J'avais même oublié que c'était le cuisinier qui était à côté de moi qu'on jugeait. Je pensais que c'était moi le responsable.
Après 3 heures à la barre, Bruno sort de la salle d'audience épuisé, mais soulagé. Le procureur a écarté sa responsabilité.
Il dit, on a cherché des responsabilités. On a fouiné, on a regardé, on a fait une enquête acoustique, on a fouillé, et on n'a rien trouvé. Mais il dit, je vous le dis, si on avait trouvé la moindre faille, on ne vous loupait pas.
L'éducation nationale est donc mise hors de cause lors de ce procès hors norme. Et c'est le cuisinier qui endosse l'entière responsabilité. Avant la fin des audiences, le meurtrier présumé formule des excuses aux familles présentes dans la salle.
Ses regrets n'y rendront jamais sa fille. S'il regrette vraiment, c'est bien. Mais pour elle, ses regrets ne signifient pas grand-chose.
Comment on peut pardonner ? Je sais pas. Pardonner ça ? Non, je crois pas, non. Moi, je peux pas.
Après une semaine de procès et 4 heures de délibéré, le verdict tombe. Le cuisinier est condamné à 30 ans de prison sans peine de sûreté. Un verdict en deçà du réquisitoire de l'avocat général qui réclamait 30 ans de prison assorti d'une peine incompressible de 22 ans. Les familles sont anéanties.
Il a eu 30 ans de réclusion et un jour il demandera sa mise en liberté. elle a des craintes, non pas pour elle ou pour sa famille, mais elle a des craintes pour les autres enfants. Pour elle, je crois que sa souffrance ne s'éteindra jamais.
Aujourd'hui, 16 ans après le drame, Ludivine est toujours présente dans le cœur de ses proches. Et jamais, ils n'oublieront cette nuit d'horreur qui les a privés de leur petite Ludivine.
Il n'y a pas une journée, pas une seule journée où je ne pense pas à elle. Elle le sera toujours, de toute façon. Parce que moi, je me demande maintenant comment elle serait. Elle devrait avoir 28 ans en fin d'année. Je me demande comment elle serait. Je suppose qu'elle serait mariée, qu'elle aurait des enfants, que j'aurais des petits-enfants. Mais tout ça, non. Tout ça, ça m'a été enlevé par un seul monsieur qui a décidé que c'était comme ça. Parce qu'elle n'a pas voulu se laisser faire. Parce que son père lui avait appris à ne jamais se laisser faire.
Crime dans les Alpes vous propose maintenant de revenir sur l'histoire d'une femme tueuse d'hommes, surnommée la Veuve Noire de l'Isère. Un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'incroyable destin d'une femme dont les compagnons meurent les uns après les autres dans des circonstances troublantes. Femme fatale ou femme maudite? Vous allez voir pourquoi il aura fallu plus de 18 ans d'enquête pour lever le voile sur la vie de celle que l'on surnomme la Veuve Noire de l'Isère.
À chaque fois qu'il me disait « j'ai peur », il me dit « je vais partir parce qu'elle me fait peur ».
Nous sommes à Villarbonneau, au cœur du Grésivaudan. Située en bordure de l'Isère et au pied des montagnes, la petite bourgade compte 7000 habitants. Depuis le déclin industriel, la commune s'est transformée en zone résidentielle avec son lotissement, ses maisons neuves et ses jolies allées fleuries.
Un lotissement comme on en voit absolument partout en France, c'est-à-dire des petites maisons beiges séparées par des haies avec un petit portail en bois.
C'est un petit quartier tranquille avec de la verdure juste à côté.
En cette matinée du 31 octobre 2008, un habitant du lotissement part promener son chien dans la forêt. Il est 8h du matin, mais une fois franchi le passage à niveau, il fait une étrange découverte dans un champ de maïs. Une carcasse de voiture incendiée, laissée à l'abandon.
Manifestement, le sinistre est très récent, puisque la voiture est encore chaude, l'incendie a dû avoir eu lieu dans les heures qui précèdent.
Pensant à un règlement de compte, le voisin appelle immédiatement la gendarmerie qui se rend sur les lieux.
Et très vite, les gendarmes, en regardant cette carcasse de voiture, découvrent que malheureusement, il y a un corps à l'intérieur, un corps calciné.
Le corps est allongé sur la banquette arrière et à l'intérieur du véhicule, tout est parti en fumée. Autre surprise pour les gendarmes, en inspectant le coffre, ils vont faire une autre découverte macabre.
Un autre plus petit cadavre qui s'avérera être celui d'un chien.
Les gendarmes décident alors de faire venir la police scientifique. Une fois sur les lieux, elle procède aux premières constatations matérielles et réalise des prélèvements sur le corps calciné. Les experts scientifiques ne retrouvent ni clé, ni bidon d'essence. Seule la plaque d'immatriculation a été épargnée par les flammes.
La première chose qu'ils font, c'est regarder à qui appartient cette voiture. Elle appartient à Daniel ou d'ailleurs un homme qui habite à quelques dizaines de mètres de là.
Le corps est envoyé à l'autopsie, dans l'espoir qu'il révèle l'identité du cadavre et qu'il fournisse des explications sur les circonstances de sa mort. De leur côté, les gendarmes débutent l'enquête. Qu'a-t-il bien pu se passer dans la nuit du 30 au 31 octobre? Est-ce le corps de Daniel qui a été retrouvé dans le véhicule calciné? S'agit-il d'un suicide ou bien d'un règlement de compte? À Villars-Bonneau, après avoir identifié le propriétaire du véhicule calciné, un certain Daniel, les gendarmes se rendent à son domicile. Arrivé sur les lieux, c'est sa femme, Manuela, qui leur ouvre la porte.
Complètement désemparée. Elle leur dit qu'elle ne l'a pas vu depuis la veille au soir.
Manuela est sous le choc. Elle explique aux gendarmes que son mari est bien parti en voiture la veille, mais qu'il n'est toujours pas rentré. Inquiète, elle ajoute également que Daniel vit actuellement une période difficile dans sa vie en raison de la mort de sa mère.
Et elle s'interroge sur quel état, dans quel état il était, est-ce qu'il n'était pas dépressif au point de commettre l'irréparable, puisque elle explique que suite au décès de la mère de monsieur Founa, ce dernier a éprouvé une forme de dépression.
Alors, Daniel était-il affecté par le décès de sa propre mère, au point de vouloir se donner la mort? Désemparée, Manuela appelle immédiatement Nicolas, le fils de Daniel, né d'une première union. Paniqué, Nicolas imagine le pire.
Je me dis, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Si c'est pas lui, où il est? Enfin, je me pose 10 000 questions.
Cela fait maintenant 24 heures que Daniel n'est pas réapparu et n'a pas donné de nouvelles. Les enquêteurs vont donc se pencher sur sa personnalité. Ils apprennent que Daniel, chaudronnier industriel de 58 ans, est à seulement quelques mois de la retraite, avec plein de projets en tête.
Il voulait continuer à travailler chez moi, me faire un garage, il voulait partir au Canada pour pêcher le saumon. Enfin voilà, plein de projets pour sa retraite. Et puis il n'a jamais eu des tendances suicidaires, jamais.
Face au récit des proches, les enquêteurs sont perplexes. D'autant qu'un autre élément met à mal la thèse du suicide. L'entourage affirme que si Daniel s'était suicidé, jamais il n'aurait tué son chien.
Rien que cet indice-là, ça ne correspond pas du tout au personnage.
Jamais de la vie, il aurait fait du mal à un animal. Jamais. En plus, au chien de la famille.
Pour les gendarmes, la thèse du suicide s'étiole. Et 3 jours après le drame, ils reçoivent les résultats de l'autopsie. Le corps n'est toujours pas identifié. Mais le médecin légiste découvre dans le sang une forte quantité de témesta, un puissant somnifère. Ce qui étonne fortement Nicolas, le fils de Daniel.
Même pour un mal de tête, il ne voulait même pas prendre de doliprane, donc j'aurais jamais vu mon papa prendre quel que soit comme médicament.
Ce 6 novembre 2008, une semaine après la découverte de la voiture, l'ADN finit par parler. Les enquêteurs apprennent qu'il s'agit bien de Daniel et de son chien, retrouvé mort dans le véhicule. Aussitôt, les gendarmes l'annoncent à la famille de la victime.
Mais là, c'est l'effondrement total. Je me dis, pourquoi il était là? Pourquoi il est décédé? Pourquoi? Tout simplement.
Les gendarmes n'ont pour le moment aucune piste. Daniel a-t-il été empoisonné ou a-t-il pris ses somnifères dans le but de se tuer? Mais si c'est un suicide, pourquoi ne retrouve-t-on pas les clés du véhicule ni le bidon d'essence qui a servi à le brûler? Et si finalement, il s'agissait d'un crime. Sept jours après le drame, à Villars-Bonneau, le mystère de la mort de Daniel reste entier. Alors les enquêteurs vont s'intéresser de plus près à la vie du couple. Mais aux yeux de l'entourage, interrogé par les gendarmes, Daniel et Manuela vivaient en parfaite harmonie.
C'est un couple très, très lié, très amoureux. Daniel était très amoureux de Manuela. Ça a été un peu un coup de foudre.
Daniel et Manuela se sont rencontrés 17 ans plus tôt, en 1991. Ils ont l'un et l'autre un enfant d'une précédente union. Manuela est même une belle-mère modèle pour Nicolas.
Elle était très très importante, c'était ma deuxième maman. Elle a été là quand j'étais très jeune, elle a beaucoup fait pour moi, que ce soit pour l'école ou enfin, pour toutes les choses de la vie pour un enfant.
Pourtant, la relation entre Nicolas et sa belle-mère se dégrade après le décès de Daniel. À tel point qu'un jour, Nicolas se rend à la gendarmerie pour faire une révélation surprenante. Il se souvient d'un mystérieux incendie qui s'est déclaré au domicile de son père un mois avant sa mort. C'est Manuela, sa belle-mère, qui l'avait prévenu.
Elle m'appelle en me disant « il y a eu le feu dans la maison, papa est parti avec les pompiers, viens vite ».
Les enquêteurs, intrigués, interrogent Manuela. Elle leur explique que c'est une bougie renversée par le chien qui est à l'origine du sinistre. Fait étrange, elle raconte qu'elle se trouvait dans la cuisine à ce moment-là, mais qu'elle n'a rien entendu.
Manuela explique, droit dans ses bottes, que, qu'elle fait souvent effectivement la cuisine à 4h du matin, qu'elle n'a rien entendu, rien senti, rien vu. En apparence, ça ressemble à un accident domestique, comme il y en arrive malheureusement beaucoup.
Mais d'après Nicolas, c'est faux. D'ailleurs, il se souvient d'une dispute entre son père et sa belle-mère le week-end suivant l'incendie.
J'ai entendu mon papa dire à Manuela, lui dire « Écoute, prends-moi pas pour un con, je savais pertinemment qu'il n'y a jamais eu de bougie. »
Un fait troublant et deux versions qui se contredisent, les enquêteurs s'interrogent.
On a une personne qui téléphone aux pompiers, elle dit qu'il y a le feu dans sa chambre, mais elle oublie un détail, qui est de dire que son mari est encore endormi dans le lit, ce qui paraît quand même particulier.
Il y a un incendie dans une maison. Oui, c'est curieux. Mais c'est curieux d'accuser la personne qui est là avec son mari d'avoir foutu le feu alors qu'il y a une compagnie d'assurance qui est venue après. Hein, parce qu'ils ont vérifié le caractère frauduleux, volontaire de l'incendie. Mais eux, ils n'ont rien vu.
Cela fait maintenant plusieurs fois que Manuela tient des propos contradictoires aux enquêteurs. Ils vont donc approfondir leurs recherches sur celle qui partage la vie de Daniel. Qui est véritablement Manuela, vers qui les regards se tournent? Aurait-elle une raison de vouloir la mort de son mari, Daniel? Après les révélations sur ce mystérieux incendie, survenu un mois avant le décès de Daniel, les enquêteurs ont de sérieux doutes sur sa femme. Ils vont donc fouiller son passé. Manuela a grandi dans les environs et a vécu une enfance modeste.
Famille d'origine espagnole, une famille nombreuse, puisqu'ils sont 7 ou 8 frères et sœurs. C'est une famille d'ailleurs qu'elle quittera assez rapidement, avant même sa majorité.
À 17 ans, Manuela rencontre un homme prénommé Gilbert. Ils se marient et ont une fille. Mais 5 ans après leur union, en 1983, un événement très étrange va se produire. Gilbert tombe mystérieusement dans le coma pendant 2 mois. Au réveil, il soupçonne Manuela.
Il a l'impression que Manuela l'a empoisonné, essayé de le tuer. Mais il n'a aucune preuve, il n'a rien pour étayer ses soupçons. il se contentera alors de divorcer.
Un an plus tard, l'histoire se répète. Manuela a 25 ans. Elle entretient une relation avec un bijoutier prénommé Michel. Et coup de théâtre, lui aussi va tomber dans le coma.
Il va s'en tirer in extremis. Mais des analyses ultérieures vont montrer qu'il avait été victime d'une tentative d'empoisonnement.
Cette fois-ci, l'enquête de l'époque le prouve, Manuela a bien empoisonné Michel. Les investigations démontrent également que lorsqu'il était dans le coma, Manuela lui a volé un chèque d'une valeur de 80 000 francs, soit un peu plus de 12 000 euros.
Le stratagème était bien trouvé et qui aurait pu tout à fait fonctionner si celui-ci ne s'était pas réveillé. Mais il s'est réveillé et ça a été découvert.
Manuela est alors condamnée par la justice à 2 ans de prison avec sursis pour vol aggravé. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. En 1989, Manuela rencontre François. Et chose étrange, il est retrouvé mort, intoxiqué, dans sa voiture, au gaz d'échappement. L'enquête conclut à un suicide. Mais un détail retient l'attention des enquêteurs. L'autopsie révèle des traces de Temesta, comme pour Daniel.
Une nouvelle fois, quand même, quelqu'un dans l'environnement de Madame Cézel, non, qui a pris des médicaments non prescrits et qui, cette fois, à la différence des deux premiers, meurt.
Et en continuant à fouiller dans le passé de Manuela, les enquêteurs s'aperçoivent, avec stupeur, que la série noire n'est pas terminée. 1990, la jeune femme s'installe avec un nouvel homme, Thierry. Moins d'un an plus tard, il meurt, lui aussi, dans des circonstances plus que troublantes.
Et il est retrouvé dans un cagibi à l'intérieur de l'appartement du couple, ayant absorbé des médicaments, en l'espèce du Temesta, alors que le cagibi en fait a pris feu, et donc lui étant à l'intérieur endormi, meurt brûlé vif.
Cette fois-ci, Manuela est placée en garde à vue, et elle explique que Thierry s'est suicidé. Une version que les proches de la victime, et notamment son ex-femme, Chantal, ne croient pas. Thierry lui faisait d'étranges confidences.
À chaque fois qu'il me disait « j'ai peur », il me dit je vais partir parce qu'elle me fait peur.
Après 3 ans d'enquête, Manuela bénéficiera finalement d'une ordonnance de non-lieu, car au moment des faits, elle avait un alibi.
Son alibi, c'est Daniel. Daniel qui ira affirmer aux gendarmes qu'il était bien avec Manuela.
Manuela, innocenté en 1991, grâce à Daniel, son nouveau compagnon de l'époque. Ironie du sort ou malédiction? Pour les enquêteurs d'aujourd'hui, en tout cas, elle devient leur suspect numéro 1. Pourquoi les compagnons qui croisent la route de Manuela finissent-ils tous au cimetière? Est-ce une femme fatale, avide d'argent, comme certains le pensent? Ou tout simplement, une femme maudite? À Villars-Bonneau, les gendarmes ont la conviction que le décès de Daniel n'est pas le fruit du hasard. Compte tenu du passé trouble de sa femme, elle pourrait bien être impliquée dans cette mort. Ils vont donc fouiller les finances du couple. Et là, surprise, ils apprennent que Daniel, comme Manuela, ont le démon du jeu.
Le casino, c'est pas un cercle fermé, donc plein de gens les ont vus. Moi, je fréquente pas les casinos, je les rencontrais pas là-bas. Mais tout le monde le savait, quoi.
Oui, j'y allais, l'un et l'autre, l'un avec l'autre, l'un sans l'autre. Ils partageaient ce goût, on va dire. Pas cette passion, mais ce goût.
Mais comment assouvir leur vice du jeu? Daniel est certes un salarié modeste, mais sa femme, Manuela, elle, ne vit que de petits boulots.
Ancienne gérante d'une auto-école, elle a même dû fermer son établissement en 2005 pour avoir mis en place un système d'arnaque au permis.
On savait qu'on pouvait obtenir un permis moyennant finance.
Mon papa l'avait mis en garde plusieurs fois, à plusieurs reprises, en lui disant « Écoute, arrête, un jour on va voir ce que tu fais, il faut que t'arrêtes, jusqu'au jour où voilà. » Ils sont tombés dessus.
Manuela a été condamnée par la justice à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende. Pour les rembourser, le couple a dû multiplier les crédits à la consommation.
L'examen des finances du couple montre qu'il y a un endettement certain, de l'un comme de l'autre, sans trop qu'on sache exactement qui a contracté ces dettes.
En épluchant les comptes bancaires du couple, les gendarmes font une autre découverte intéressante. Daniel et Manuela ont signé un prêt hypothécaire d'un montant de 165 000 euros. Et plus surprenant encore, d'après Nicolas, son père n'était même pas au courant.
Ce matin-là, il m'appelle en me disant « Écoute, aujourd'hui, je ne vais pas aller travailler. Je viens d'apprendre que j'ai un crédit sur la tête de 165 000 euros avec hypothèque de la maison, etc. Et » Donc je lui dis « Mais quel crédit ? » Et il me dit « Écoute, je ne suis même pas au courant. Je viens de l'apprendre. La société de crédit vient de m'appeler en me disant qu'il y a un problème de règlement. » Donc voilà comment il l'a appris.
Si Daniel n'était pas au courant, qui donc aurait contracté ce prêt hypothécaire ? Les enquêteurs se rendent chez le notaire pour retrouver l'acte authentique. Et ils découvrent un élément encore plus intriguant. Non seulement il y a eu une procuration, mais la signature pourrait avoir été imitée.
Une étude graphologique qui conclut que la signature portée sur la procuration n'est pas celle de M. Gounay.
Qui donc a signé à la place de Daniel ? Manuela aurait-elle fait un faux ? Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent que Daniel possédait également une assurance vie de 100 000 euros. Criblée de dettes, Manuela aurait-elle supprimé son mari pour toucher ses 100 000 euros ? Encore une fois, son avocat conteste cette hypothèse.
C'est une assurance qui est liée au contrat de travail de M. Gounay. Et donc, elle n'est pas censée connaître l'existence de cette assurance. La preuve, c'est que lorsqu'il décède et qu'elle est laissée libre de ses mouvements, elle ne fait pas de demande.
Mais pour les enquêteurs, c'est un indice supplémentaire. Manuela serait prête à tout pour l'argent. À leurs yeux, se dessine peu à peu le mobile du crime.
Est-ce qu'elle s'est enrichie ? Moi, je peux vous répondre que non, et le dossier ne démontre pas qu'elle s'est enrichie. Donc on peut toujours trouver des poux à son chien quand on n'en veut plus, mais là, je dis qu'on monte quelque chose artificiellement. Et malheureusement pour elle, elle a toujours été pauvre.
Les gendarmes ont pourtant la conviction que Manuela est impliquée de près ou de loin dans le décès de son mari. Ils décident donc de l'interpeller. Mais ont-ils suffisamment de preuves contre elle ? Et quelles sont véritablement les charges qui pèsent sur Manuela ? En mars 2010, 18 mois après les faits, Manuela est convoquée à la gendarmerie. Et à sa plus grande surprise, elle est placée en garde à vue. Devant les enquêteurs, elle clame son innocence.
Tout de suite. C'est le leitmotiv. Il n'y a pas d'hésitation. C'est tout le temps. C'est pas moi.
Manuela est interrogée à nouveau sur ses anciens compagnons, morts dans des circonstances troublantes. Ses explications, parfois confuses, s'ajoutent aux suspicions des gendarmes.
Ils se font une idée. Eux, ils tapotent sur leur machine. Ils le font systématiquement. Ils disent « Ah tiens, elle avait un dossier à telle date. Ah tiens, elle avait un dossier à telle date. Ah tiens, elle avait un dossier. » Est-ce qu'ils sont orientés vers autre chose ? Est-ce qu'ils ont exploité la piste du suicide ? Ils s'en foutent. ils n'en veulent pas, parce que c'est même pas jubilatoire, on va dire. Voilà, vous avez été condamné, il y a des hommes qui sont morts sur votre chemin, donc vous êtes coupable.
À la fin de la garde à vue, Manuela est placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Chambéry. Des expertises psychiatriques sont réalisées pour l'instruction. Et les conclusions vont toutes dans le même sens. Manuela présente un profil à deux visages.
Une personne avec une double personnalité qui peut à la fois paraître tout à fait gentille, lisse, aimante, et puis une autre personnalité, beaucoup plus tournée vers l'argent, éloignée de toute notion de culpabilité. Donc là, on peut trouver vraiment la clé d'une personne qui peut effectivement se retrouver coupable et accusée de ce genre de fait.
À l'été 2013, plus de 4 ans après les faits, l'instruction est terminée. Manuela est mise en examen pour tentative d'assassinat, pour l'incendie de sa maison et homicide volontaire avec préméditation pour le décès de son mari.
Moi j'attends qu'on m'apporte des preuves de l'homicide volontaire qui lui est reproché et qu'elle est supposée avoir prémédité.
À Villar-Bonneau, la mort de Daniel a fait ressurgir les histoires de Manuela. 5 maris, 3 décès, 2 comas. La presse la surnomme même la veuve noire de l'Isère.
Une malchance pareille, ça peut s'apparaître un peu gros, quoi. Elle dit qu'elle est innocente. Pourquoi pas? Alors qu'on amène un coupable. Ou une coupable. Si elle est innocente, mais pas un suicide, de toute façon, ça c'est impossible.
Lundi 14 avril 2014, le procès de Manuela se tient devant la cour d'assises de Grenoble. Chaque partie campe sur ses positions.
Des indices, on en a dans ce dossier qui, accumulés et mis bout à bout, permettent de conclure à la culpabilité.
On ne vérifie pas, on accuse. Et quelquefois, malheureusement, on condamne.
Après une semaine de débat, le verdict tombe. Manuela est condamnée à 30 ans de prison, une peine encore plus lourde que celle requise par le procureur général. Devant les médias, son avocat annonce immédiatement que sa cliente fait appel de la décision. À Villar-Bonneau, 6 ans après les faits, Nicolas, le fils de Daniel, va pouvoir commencer à faire son deuil. Même si l'absence de son père laisse un grand vide qu'il n'arrive toujours pas à combler.
Je me dis quoi ? Je me dis qu'il me manque, je me dis qu'il s'est fait avoir. Voilà, parce que mon papa, il n'avait pas le droit de mourir. C'est pas son heure. Il avait plein de choses à faire. Et... voilà.
Crime dans les Alpes se dirige maintenant dans le sud, à Gap. C'est ici qu'un soir d'été 2010, une fête entre amis a viré au cauchemar. Un reportage inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment le meurtre gratuit d'un homme sans histoire et apprécié de tous a bouleversé la vie de tout un quartier, de Gap. Un terrible drame qui va hanter à tout jamais son fils unique, parti un jour sur les traces de son père.
On essaie de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, abasourdi, et puis là... On est dans un autre monde, hein. On ne réalise pas. Au premier temps, je pense que... enfin, moi, je n'ai pas réalisé.
Nous sommes dans les Alpes du Sud, à Gap. Une ville paisible, nichée à 750 mètres d'altitude, qui jouit d'une douceur de vivre et d'une nature riche et préservée. Été comme hiver, cette commune de 40 000 habitants attire de nombreux touristes.
Gap, c'est la préfecture des Hautes-Alpes. C'est un petit peu la capitale du département, située sur une route très touristique qui est la route Napoléon.
L'empereur Napoléon fait la fierté des habitants pour avoir séjourné à Gap à son retour de l'île d'Elbe. Mais ce qui séduit ici, c'est surtout le cadre de vie et la tranquillité.
Les affaires criminelles tiennent très très peu de place. On est plus soumis à de la petite délinquance de voie publique, du petit usage de stupéfiants qu'aux affaires criminelles.
Et si les crimes sont rares à Gap, il n'en demeure pas moins qu'ils marquent les esprits.
C'est des affaires dont on parle beaucoup parce que tout le monde se connaît. Et c'est des affaires dont on parle beaucoup et très longtemps après. Il y a toujours beaucoup de rumeurs qui circulent aussi sur ces affaires-là. Tout le monde essaie un petit peu d'avoir son point de vue, son opinion.
Nous sommes dans la nuit du 25 au 26 août 2010, au commissariat de police de Gap. C'est une soirée tranquille pour les fonctionnaires en poste. La ville paraît très calme, lorsque soudain, un policier est alerté par un coup de fil étrange.
Le chef de poste reçoit un appel sur la ligne 17, une personne au bout du fil. L'appel est à peine audible, qui déclare s'être fait poignarder.
Donc c'est vrai qu'à 1h10 du matin, c'est un peu branle-bas de combat au commissariat.
Stupéfait par la teneur tragique de cet appel, les policiers tentent de le localiser. Mais 5 minutes plus tard, ils sont à nouveau surpris par une situation inhabituelle.
Il se présente un individu en état d'ivresse, que l'on connaît un petit peu pour cette déviance, ensanglanté. Il déclare s'être fait agresser en ville par deux femmes.
Le coup qu'il a reçu est à la tête, donc c'est vrai qu'il y a une grande plaie sur la tête qui saigne énormément. Il était vraiment dans un piteux état.
L'individu part seul à l'hôpital se faire soigner. Pendant ce temps, de leur côté, les policiers investissent immédiatement les rues avoisinantes pour tenter d'en savoir plus.
Ils décident de suivre les traces de sang de cette victime qui s'est présentée au poste en se disant, avec les traces de sang, saignant comme il saigne, on va retrouver l'endroit où il s'est fait agresser. Et ça les emmène à 150 mètres ou 200 mètres du commissariat, une petite rue du centre-ville qui se trouve en face du commissariat, au pied d'une porte au numéro 31 de cette rue Jean-Aymar à Gap.
Les trois hommes de la brigade anticriminalité pénètrent dans l'immeuble. En suivant les traces de sang, ils arrivent alors au deuxième étage.
Donc les inspecteurs de la BAC suivent ces traces de sang dans l'immeuble. Ils frappent à la porte d'un appartement. On leur ouvre, ils trouvent 5 personnes tranquillement attablées.
C'est des gens qui ont fait la fête, il y a du désordre dans l'appartement. Ils se sont battus avec la personne qui s'est présentée au commissariat. Et tout d'un coup, on est dans une mise en scène complète. Tout le monde est posé, tout le monde est calme.
Les policiers comprennent vite qu'ils sont sur le lieu de l'agression qui a conduit l'homme ensanglanté au commissariat. Alertés par l'attitude étrange des 5 individus, ils décident de continuer leurs investigations.
Et ils découvrent des traces de sang qui montent à l'étage au-dessus. Ils suivent ces traces de sang. Ils trouvent la porte de l'appartement au-dessus, donc du troisième étage, ouverte. Ils rentrent dans l'appartement, des traces de sang sont dans l'appartement. Ils découvrent le corps d'un homme sur son fauteuil, un homme d'une 60aine d'années, le téléphone portable encore dans la main. Ils constatent immédiatement que l'homme a cessé de vivre.
Qui est donc cet homme sans vie qui gît sur son fauteuil? De quoi est-il mort? Et surtout, que signifient toutes ces traces de sang? Après la découverte macabre de cet homme sans vie dans son appartement de Gap, les fonctionnaires de police gèlent immédiatement les lieux et procèdent aux premières constatations.
Alors quand ils arrivent dans l'appartement, ils découvrent cet homme mais qui baigne dans son sang.
On s'aperçoit qu'il a reçu plusieurs coups de couteau, notamment un au niveau de l'épaule, un au niveau du torse.
Les policiers comprennent très vite qu'ils ont affaire à un crime. Et un détail attire leur attention. Le téléphone, que l'individu tient toujours dans sa main, n'est pas raccroché.
Je crois qu'un fonctionnaire de la BAC prend le combiné et se retrouve en liaison avec le poste de police.
Le lien est fait assez rapidement finalement entre cet appel qu'ils ont reçu et ce corps qu'ils découvrent dans l'appartement.
Pour les hommes de la BAC, l'homme décédé est bel et bien l'auteur du coup de fil inaudible reçu un peu plus tôt au commissariat. Et ils vont continuer leurs investigations dans l'appartement de la victime à la recherche d'indices.
Il n'y a pas d'effraction sur cette porte. La porte est ouverte, ils sont rentrés facilement dans l'appartement.
C'est quelqu'un qui est rentré chez lui, la porte était entrouverte, il est allé s'écrouler sur son fauteuil, il n'a pas été agressé à son domicile.
Autre élément important, les enquêteurs mettent la main sur le passeport de la victime. Ils parviennent ainsi à l'identifier. L'homme s'appelle René et a 58 ans. Mais pour l'instant, ils n'en savent pas beaucoup plus. Ils procèdent donc à une enquête de voisinage, espérant recueillir d'autres informations. Et deux habitantes de l'immeuble livrent des témoignages précieux.
Ce qui ressort de toute façon, c'est que il y avait un problème ce soir-là entre l'appartement du dessous, le premier où ils ont tapé, avec beaucoup de bruit.
Une fête se serait déroulée au deuxième étage, là où les policiers sont entrés un peu plus tôt. L'occupante principale des lieux, Catherine, est d'ailleurs bien connue de ses voisins. Ce soir-là, elle avait d'ailleurs invité quatre amis à elle.
L'occupante du deuxième, donc Catherine, est quelqu'un qui a assez mauvaise réputation dans l'immeuble. Quelqu'un qui organise beaucoup de fêtes et souvent très alcoolisé.
À l'inverse de l'occupante du deuxième, René, la victime, est décrit comme un homme sympathique et sans histoire. Les fonctionnaires de la BAC, rejoints par les officiers de la police judiciaire, retournent donc sur le champ dans l'appartement de Catherine. Et là, ils vont faire une découverte surprenante.
En inspectant un peu plus les lieux, ils se rendent compte qu'il y a des taches de sang qui ont été nettoyées, y compris dans la cage d'escalier, que tout a été mis au propre. Donc là, il y a vraiment des questions qui se posent sur ce qui s'est passé. Et il y a le lien qui est fait finalement en se disant « les faits se sont déroulés entre ces deux appartements-là ».
Pour les enquêteurs, il n'y a pas de doute. Tous les occupants de l'appartement du deuxième étage sont des suspects sérieux. D'ailleurs, certains d'entre eux présentent également des traces de sang sur leurs vêtements.
Tout de suite, on décide de placer en garde à vue les occupants de l'appartement de Catherine. La difficulté, c'est que tout le monde est en état d'ivresse. Donc, on fait ramener tout le monde au service.
Parmi les suspects, on compte trois femmes et deux hommes âgés d'une trentaine d'années. Ce sont des individus en marge, connus pour usage de stupéfiants et très alcoolisés. Il est donc impossible de les interroger pour l'instant. Les enquêteurs doivent attendre qu'ils aient dégrisé. Alors que s'est-il passé entre les occupants du deuxième et celui du troisième étage de l'immeuble? Une fois en état de parler, les cinq suspects apporteront-ils toutes les réponses aux enquêteurs? À Gap, c'est aux policiers que revient la lourde tâche de prévenir les proches de la victime. Yann, le fils unique de René, a 30 ans. Il est fonctionnaire de police, en poste à Marseille. Lorsqu'il apprend la terrible nouvelle, il s'effondre.
On essaie de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Et puis là, on est dans un autre monde, hein. On ne réalise pas. Au premier temps, je pense que... Enfin, moi, je n'ai pas réalisé.
Pour Yann, ce drame est d'autant plus douloureux qu'il a une histoire particulière avec son père. Ses parents se sont en effet séparés quand il n'avait que 3 ans. Il est alors élevé par sa mère. Ce n'est qu'à 18 ans qu'il renoue contact avec son père, parti vivre au Brésil.
Ma grand-mère a voulu me faire une surprise à moi et à mon père, donc en organisant nos retrouvailles pour mes 18 ans, donc je suis allé au Brésil.
Les retrouvailles au Brésil, entre les deux hommes, ont marqué sa mémoire. Et Yann a du mal à cacher son émotion.
Bon, les larmes sont venues aux yeux hein, de suite. Hein. C'était émouvant, très émouvant. Tout le monde s'est mis à pleurer. Tout le monde a... J'en ai encore les larmes aux yeux parce que c'est... Ce qui est tuant, c'est qu'il est parti au moment où on s'était retrouvés.
Depuis ses 18 ans, Yann n'a eu de cesse d'entretenir des contacts étroits avec son père. Si bien qu'au début des années 2000, René décide de quitter le Brésil pour venir en France. Il s'installe à Gap pour se rapprocher de son fils. René change aussi de métier. Il met un terme à sa carrière dans la restauration pour se consacrer à sa vie d'artiste.
Et il a voulu vivre de ses projets, vivre de son art, donc faire des tableaux, de peindre, de faire ses meubles, de créer. Voilà.
Ce monsieur René, donc, que les gens surnommaient l'homme aux Terre-Neuve, était unanimement apprécié dans le quartier. C'était le voisin qu'on a envie d'avoir.
René se confiait volontiers à ses voisins. C'est notamment à Pascal et Betty qu'il racontait ses projets et qu'il partageait ses soucis du quotidien. Un détail, sur la veille du drame, va d'ailleurs éveiller l'attention des enquêteurs.
La veille déjà, le matin, il m'en avait parlé, il m'avait dit, voilà, cette nuit, j'ai fait venir la brigade anticriminalité, la BAC. Ils sont venus, ils sont montés à l'étage parce qu'il y avait déjà un bruit énorme, quoi, ça avait déjà posé des problèmes. Et le ton était monté, donc la BAC était venue. Lui était excédé par le bruit qui durait déjà depuis plusieurs jours.
Il n'arrivait pas à dormir, son chien tournait en rond, la nuit il dormait pas du tout. Il me le disait quand je revenais, il me disait je dormais pas de la nuit et tout, et ça l'agaçait quoi. Il était énervé, il n'en pouvait plus quoi. Il était au bout du rouleau.
4ine, l'occupante du deuxième, habite dans l'immeuble depuis seulement 2 mois. Pour autant, elle n'a jamais ménagé les nuits de ses voisins. René s'était également confié à son fils sur ce problème de voisinage.
Je lui ai expliqué, je lui ai dit qu'à la limite, il avait intérêt à faire un courrier à son bailleur, lui expliquant les faits. Il y avait d'autres locataires qui s'étaient plaints, qui étaient gênés du tapage, parce que évidemment, ça discute.
Après avoir fouillé la vie de la victime, les enquêteurs disposent désormais de plusieurs éléments. Ils constatent en effet qu'il y a un vrai problème de voisinage dans l'immeuble. Pourtant, René était un homme sans histoire et qui n'avait pas d'ennemis particuliers. Alors, y aurait-il eu une altercation avec 4ine et ses acolytes qui lui aurait été fatale? Alors que les 5 suspects sont toujours en train de dégriser en garde à vue, les enquêteurs continuent leurs investigations dans l'immeuble de la rue Jean-Aymar à Gap. Ils sont rejoints par la police scientifique.
Sur place, donc, la police scientifique passe au Blue Star, c'est le produit pour révéler les traces de sang dans la montée d'escalier. Il s'avère que le palier du second a été complètement nettoyé. La montée d'escalier a été nettoyée. Ça n'avait pas été fait extrêmement soigneusement, ça avait été fait visiblement dans l'urgence.
Les enquêteurs retrouvent immédiatement des bouts de verre et puis un couteau qui a été lavé, mais qui, passé au test rapide qui permet de vérifier si du sang a été déposé sur le couteau, est positif. Donc manifestement, on trouve un couteau qui a été ensanglanté peu de temps auparavant.
Les policiers sont donc désormais en possession de l'arme du crime. Ils découvrent également une serpillière et des habits ensanglantés. Tous les éléments prélevés sont placés sous scellé pour être analysés. Pendant ce temps, au poste de police, les auditions des suspects commencent. Le premier à être entendu, c'est Emmanuel, l'homme qui s'était présenté ensanglanté au commissariat.
Emmanuel explique qu'il a été agressé par une des femmes qui sont également placées en garde à vue, par une femme qu'il appelle Priscilla, et qu'il y a eu une dispute ce soir-là entre eux, et qu'elle l'a agressé avec un tesson de bouteille. et que les blessures qu'il a à la tête et les coupures, et ben c'est elle qui l'a fait, et que ce soir-là, elle était dans une colère incroyable.
Emmanuel reprochait le comportement de Priscilla envers sa fille.
Il va lui dire que c'est une mauvaise mère et que d'une certaine manière, elle a eu que ce qu'elle méritait.
La fille de Priscilla a été enlevée par son ex-compagnon, qui l'a emmenée en Turquie. Elle n'a donc plus de contact avec elle depuis des années.
Va se sentir humilié, offensé par les propos qui sont tenus. Donc là, elle n'a pas pu retenir la violence qu'elle avait en elle en raison de cette situation.
Les policiers parviennent donc à identifier l'auteur de la première agression qui a conduit Emmanuel ensanglanté au commissariat. Mais ce qui intéresse surtout les enquêteurs, c'est d'élucider le meurtre de René. Et sur ce point, les premières auditions restent floues.
Il ressort que le voisin du troisième étage serait venu taper à la porte de Catherine pour se plaindre du bruit. Il y aurait eu une échauffourée sur le palier où ce voisin-là aurait agressé les gens présents et serait remonté à son domicile. Personne n'a vu qui lui aurait pu lui porter un coup. Ce serait lui qui serait venu donc agresser les cinq personnes pour réclamer le silence.
Même s'ils reconnaissent une altercation avec René, les suspects nient en bloc leur éventuelle participation au meurtre. D'ailleurs, aucun d'eux, à part Catherine, ne connaissait la victime avant ce soir-là.
Et les personnes qui, ce soir-là, étaient là et ont contribué d'une manière ou d'une autre, tous se défilent. Moi, j'étais au fond de la scène, de la salle, de l'appartement. Moi, j'étais sur le canapé. Moi, j'étais dans la salle de bain pour X raisons. Moi, j'ai ouvert la porte et après, je suis parti. Tout le monde tente de se défiler.
À la fin des premières auditions, les enquêteurs n'ont toujours aucun aveu. Mais l'étau se resserre autour des suspects. Alors, que vont révéler les prochaines auditions? Les policiers arriveront-ils à identifier formellement l'auteur du meurtre? Au commissariat de Gap, après plusieurs heures de garde à vue, les suspects restent murés dans le silence. Pourtant, une femme se décide finalement à parler. Elle s'appelle Madja.
Elle me dit non, finalement, je vais vous dire la vérité. Donc elle revient dans le bureau et elle me dit que Priscilla leur aurait dit « Je l'ai planté quatre fois. Je l'ai planté quatre fois. » Et elle menace les gens qui sont là en disant « Vous vous taisez, vous dites rien, vous vous taisez. » Donc il fallait que tout le monde donne une version vague et floue, ce qui a été fait lors de la première audition.
Madja met donc formellement en cause Priscilla. Tout comme va le faire un autre suspect, Michael. Tous reconnaissent également avoir nettoyé l'appartement et la cage d'escalier pour camoufler le meurtre. Pour autant, Priscilla, elle, continue à nier et campe sur ses positions. La jeune femme ne connaissait pas la victime et n'aurait donc aucune raison de s'en prendre à elle.
Les policiers et les enquêteurs lui pointent bien que ce qu'elle dit ne colle pas du tout avec ce que les autres disent et puis ce qui s'est passé. Donc voilà, à force de questions, à force de pointer un petit peu tout ce qu'elle disait et les incohérences de ce qu'elle disait, elle finit par dire que oui, elle a bien donné des coups de couteau à René.
Les aveux sont tombés. Les policiers recherchent désormais les circonstances exactes de ce crime odieux.
Tout se racontait que mon père les avait agressés, qu'il avait déboulé, qu'il les avait insultés, frappés, etc., etc. Et j'avais peur qu'ils osent invoquer presque légitime défense.
Pour Yann, le fils de René, il est impossible que son père ait agressé les voisins. Il n'est pas de nature violente. Et ce sont les résultats de l'autopsie et des prélèvements ADN qui vont permettre aux enquêteurs de mieux comprendre le scénario du drame.
On prétend qu'il a donné un coup de poing, et notamment un coup de poing au front, qui devrait laisser des traces sur les phalanges. Et il n'y a aucune trace sur les phalanges. Manifestement, il n'a pas donné de coup de poing, il a simplement essayé de se défendre.
la thèse de la légitime défense est donc mise à mal. Et ce, d'autant plus que les plaies induites par les coups de couteau sont très profondes. Tous ces éléments scientifiques permettent aussi d'identifier, formellement, l'auteur du crime.
Les coups de couteau définissent donc que la personne était gauchère. Ça, c'est le médecin légiste qui nous explique que comme sont portés les coups de couteau, et ce qui correspond donc à Priscilla, qui est gauchère.
Ce qui va être déterminant, c'est ce qu'on trouve sur le couteau. Les résultats ADN sur le couteau, il y a le sang de la victime, René, il y a aussi le sang de Priscilla.
Priscilla est donc écrouée et mise en examen pour meurtre. Les autres co-accusés sont, eux, mis en examen pour modification de scène de crime et non-assistance à personne en danger. En attendant le procès d'assises, le juge d'instruction s'intéresse à la personnalité de la principale accusée, Priscilla. La jeune femme a 26 ans et elle est née à Gap.
Ce qui ressort, c'est qu'elle n'a pas un passé de violence. C'est pas une personne qui naturellement est violente. Ça a été un des principaux éléments aussi. Elle n'avait pas d'historique d'agression à proprement parler. Par contre, ce qui est mis en lumière, c'est son passé, qui reste un passé très compliqué. Violée par son mari, battue, son enfant qui lui est enlevé. Cette histoire voilà, de femme qui a peut-être pas fait les bonnes rencontres et qui est un petit peu perdue à ce moment-là.
Pour les enquêteurs, c'est donc la personnalité et le passé de Priscilla qui apportent des éléments d'explication à son passage à l'acte.
Ce qui ressort, c'est que finalement René a été un défouloir pour Priscilla. Elle explique que Emmanuel, avec ses insultes avant, l'ont mis dans une colère incroyable et qu'au moment où René descend, bah, c'est le mauvais moment. C'est le moment où elle est vraiment dans une fureur atroce. Et les mots et la façon, et quand il lui demande d'arrêter le bruit et quand il dit que c'est trop, eh bien ça va faire office de déclencheur. C'est au moment où elle craque, on va dire, et cette fureur fait que pour le calmer, pour se calmer elle également, eh bien elle prend ce couteau et elle le poignarde.
Il s'agirait donc d'un geste gratuit. Pour les proches de René, le mobile du meurtre reste difficile à accepter. Yann et sa famille auront-ils toutes les réponses à leurs questions ? Les accusés s'expliqueront-ils davantage sur cette nuit meurtrière au cours de leur procès ? Nous sommes le 9 septembre 2013 à la cour d'assises de Gap. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de Priscilla et ses quatre autres co-accusés. Priscilla encourt 30 ans de prison pour le meurtre de René. À l'ouverture de l'audience, l'ambiance est crispée.
C'est la toute première fois que la famille de René voit les accusés. Donc il y a énormément d'émotions et beaucoup de tensions également pour essayer de déterminer ce qui s'est passé entre deux milieux qui s'affrontent.
Cela fait 3 ans que Yann attend ce procès. Le fils de René espère enfin obtenir des réponses à ses questions.
Tous avaient reconnu les faits et se déclaraient coupables. Donc on s'est dit, ben voilà, c'est parfait. Ils vont pouvoir raconter ce qui s'est passé, se libérer, se délivrer, je ne sais pas. Enfin bref, avoir les circonstances exactes.
Si tous les accusés ont avoué les faits, le déroulé exact du drame de meurtre est flou. Et le procès peine à délier les langues.
Les co-accusés de Priscilla lors du procès n'ont jamais assumé ce qui s'est passé. La ligne, ça a toujours été « on n'a rien vu, on ne sait pas ». Et puis l'attitude de Priscilla d'un autre côté qui est détachée de ce qui se passe. C'est ce qui a été ressenti par beaucoup de monde. C'est vraiment l'ambiance de ce procès où j'ai donné un coup de couteau, je l'assume, je le dis, je ne voulais pas le tuer, mais il y a très peu de remords.
Pourtant, l'avocat de Priscilla insiste sur le fait que sa cliente n'a pas une âme de meurtrière.
Comment peut-elle concevoir avoir souhaité infliger la mort à quelqu'un qu'elle ne connaît pas ? Elle a infligé un profond coup de couteau au voisin, à la victime, mais pour autant, est-ce que l'intention meurtrière l'a habité ? Sans doute ! Dans quelle proportion? Pendant combien de secondes?
Et il faut donc aller chercher, dans son vécu, pour expliquer son geste de colère.
La raison pour laquelle elle frappe la victime, c'est toute la violence qu'elle a subie. C'est une forme d'exutoire. Mais si jamais on avait écouté, si on l'avait entendu, si on lui avait prêté un peu de considération, jamais cela ne serait survenu.
Après 4 jours d'audience et 5 heures de délibéré, le verdict tombe. Les jurés ont pris en considération le passé difficile de la principale accusée. Priscilla est condamnée à 12 ans de prison pour meurtre. Les co-accusés écopent de 2 ans de prison aménageable pour modification de scène de crime et non-assistance à personne en danger. Pour Yann, ce verdict n'a pas beaucoup de signification.
On ne peut pas remplacer un père, des souvenirs, par quelqu'un qui fait la prison, même si elle en fait 15, 20, 30, 40. Elle est peut-être en prison, mais nous, notre père, le proche, on ne le voit plus, donc c'est tous les jours qu'on vit avec ça.
Aujourd'hui, 4 ans après le drame, personne, dans la rue Jean-Aymard à Gap, n'a oublié le sourire de René. Et pour Yann et sa famille, le meurtre de René reste à jamais vécu comme une terrible injustice.
Quand on perd quelqu'un brutalement du jour au lendemain, d'autant plus qu'il y a des choses qui étaient prévues de faire, on était censé se voir 3 jours après, donc c'est dommage, quoi. C'est du gâchis parce que c'était quelqu'un qui est tombé au mauvais moment, au mauvais endroit, et qui avait tant de choses à faire.